Bonsoir week-end.
Wendy Bouchard.
Jusqu'à 19h, le débat des grandes voix du samedi avec ce soir Laetitia Krupa, journaliste politique, Frédéric Dabi, observateur de la vie publique, directeur général adjoint de l'IFOP, le spécialiste en communication Philippe Moreau-Chevrolet, professeur à Sciences Po et président de MCBG Conseil. Bienvenue, bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bonsoir Wendy.
Chers grandes voix, vous allez analyser les faits d'actualité et vous avez de quoi réagir et vous indigner ce soir. Le million de vaccinés, mais les attentes aussi du vaccin pour protéger les Français. Quels sont les signaux qui nous donnent de quoi nous réjouir ou nous alerter. On va y revenir ce soir, nous en parlions à l'instant avec la présidente de la Haute Autorité de Santé. Vos coups de cœur, vos coups de griffes qui soulignent une société qui se fracture parce qu'on refait, on réécrit notre histoire, on y vient. Le Sénat qui s'empare du débat sur l'inceste jusqu'à Emmanuel Macron et ses mots ce soir, aucun répit aux agresseurs, voilà ce qu'il dit trois semaines après la déferlante MeToo inceste. On vous écoute sur le sujet, il est 18h36.
Wendy Bouchard, les grandes voix.
On va commencer avec un tour de table de vos émotions, coup de chapeau ou indignation de la semaine. Je vous laisse commencer, Laetitia Krupa, coup de gueule, je crois.
Coup de gueule contre la démission du dessinateur Xavier Gorce du Monde. Je ne vais pas revenir sur le fond de l'histoire. Je pense que tout le monde a à peu près compris ce qui s'était passé. Un dessin de Xavier Gorce diffusé dans la newsletter du journal du Monde sur l'inceste qui a déchaîné certaines foules sur les réseaux sociaux et qui a entraîné un mot de plates excuses de la part de la direction de rédaction du Grand Quotidien qui n'a pas couvert son dessinateur et donc celui-ci a claqué la porte. Pourquoi je suis énervée ce soir ? Je ne veux pas juger la qualité du dessin ni sa pertinence, ça c'est une affaire de goût, d'humour et donc c'est éminemment subjectif. C'est subjectif. Je suis en colère contre Le Monde qui a lâché en rase campagne son collaborateur avec lequel le journal travaillait depuis 18 ans. D'après le patron, il ne s'agit pas d'une censure puisque le dessin en l'occurrence serait encore visible. Mm-hmm. En fait, il aurait passé un peu trop rapidement les fourches, la validation éditoriale. Mais il semblerait que ce soit la campagne d'indignation sur Twitter qui ait eu raison de la réaction du Monde. Et là, je dis non. Non aux diktats des réseaux sociaux, non aux médias qui plient face aux tempêtes plus ou moins orchestrées, plus ou moins effrayantes, je vous l'accorde. Non à cette masse immense et infinie des internautes qui dicterait les lignes éditoriales des journaux. Si le journalisme cède aux réseaux sociaux, c'est la fin du journalisme. C'est aussi simple que ça. Et on sait déjà qu'il a cédé beaucoup trop de terrain. L'émotion, l'individualisme, les familles des offensés, des sensibles, des susceptibles ne doivent pas prendre le pouvoir sur les journalistes. Je sais bien qu'on n'est pas très aimé par la population, que dans les enquêtes d'opinion, vous nous le direz certainement, on est toujours au plus bas, mais je persisterai toujours à affirmer haut et fort que le journalisme, qui, je vous le rappelle, est considéré normalement comme le quatrième pouvoir, est un rempart de la démocratie. Donc non aux diktats des réseaux sociaux. Tant qu'on ne décidera pas de construire cette digue, nous, journalistes, nous serons envahis par l'émotion de ces réseaux.
Frédéric Dabi, ça vous fait réagir.
Je n'ai pas un mot à enlever sur ce qu'a dit Laetitia Krupa. Donc je vais laisser peut-être Philippe, qui va être peut-être plus en désaccord. Je rappellerai de mes bons souvenirs de carrière. En 2006, j'avais fait une enquête pour la MGEN sur le dessin de presse. Comment les parents d'élèves, comment les enfants, comment les Français perçoivent les caricatures, les dessins de presse. J'avais présenté cette étude avec Plantu. Et quand on interrogeait les Français sur à quoi sert un dessin de presse, à quoi sert une caricature, trois représentations émergées, nous faire rire, choquer et nous faire réfléchir. De ce point de vue-là, je trouve cette affaire tout à fait navrante et bien révélatrice de la triste époque que l'on vit.
Oui, Plantu qui manifestement a fait le tour lui aussi de cette époque-là parce qu'il quittera le journal Le Monde, c'était prévu fin mars. Voilà, cette association était durable et belle, mais elle se termine. Philippe Roche-Chevrolet, désaccord donc
là-dessus ? Oui, moi je suis plutôt du côté de Libération qui titrait « Il est permis de polémiquer avec les polémistes ». Donc on peut être d'accord avec Xavier Gorce. Le dessin a été publié, il est toujours en ligne, donc il n'y a pas de censure. La direction du Monde a dit qu'elle avait fait une erreur, ce qui après tout est possible. On a le droit de faire des erreurs en tant que journaliste, on a même le droit de les reconnaître.
Oui, c'est bien.
Et voilà, lui n'a pas bien vécu le dessinateur, donc il démissionne. Bon, d'accord, mais ce n'est pas de la cancel culture. Il part, on ne va pas le retenir.
Je mets balance la vague d'indignation sur Twitter aurait fait que finalement Le Monde aurait dit « Oups, j'ai fait une erreur, je pense vraiment, Philippe ». D'accord,
que
on n'est pas
sur Twitter,
non,
que ce soit une manifestation devant
mais,
le journal.
Non, mais vous n'êtes pas journaliste.
Erreur,
excusez-moi, moi je défends ma corporation. Si les journalistes commencent à être envahis par ces vagues, et vous le savez bien, ça va être successif et c'est de plus en plus fort.
Macron. Oui, c'est embêtant qu'il y ait des lecteurs qui vous disent qu'ils ne sont
mais
pas d'accord avec
mais
vous.
Mais est-ce que
ça arrive?
Non, mais on les lit, mais on n'en prend pas compte.
On va y revenir sur cette vague des réseaux sociaux avec le mytho inceste qui fait aussi beaucoup de bien, qui fait plier aussi.
Par ailleurs, moi je suis lecteur du Monde, je ne pouvais pas supporter Xavier Gors, je suis ravi qu'il s'en aille. Et je pense que la politisation, les clivages, le fait de ne pas être d'accord, le fait de le dire, le fait de s'excuser quand on fait des erreurs, c'est bien. Et je ne supporte plus le « en même temps » à cette espèce de jus tiède qu'on nous sert à longueur de débat. Je veux de l'opposition et du clivage.
Moi, je crois qu'il y a une certaine hypocrisie.
Essayez d'être le juge de paix, Frédéric Lavie.
Ça sera très difficile. Je suis ni juge, mais j'aime beaucoup la paix. L'idée quand même, c'est que voilà, je pense que ce que dit Philippe est tout à fait juste. Il a le droit d'aimer, de détester, de se réjouir du départ de Xavier Gors. Moi, ce que je trouve, et là, je me range du point de vue de Laetitia Krupa, c'est la rapidité avec laquelle le Monde a lâcher.
Il fallait demander de contextualiser.
Mais ils n'ont pas lâché.
Ils
ont juste dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec son dessin.
Il suffisait de contextualiser. Il suffisait de faire un débat. Il suffisait que le médiateur du Monde prenne la parole. Que l'on débatte franchement sur ces sujets plutôt qu'être binaire et arriver à cette situation-là.
Merci de donner trois ouvertures et images possibles de cette actualité. Philippe Moreau-Chevrolet, coup de quoi ce soir?
Alors, c'est un coup de gueule. Enfin, c'est un constat en réalité. C'est un petit peu la semaine du naufrage de la communication gouvernementale. Enfin, c'est un peu un Titanic de la com. On a le président d'abord qui nous a expliqué qu'il en avait marre des critiques contre sa gestion du Covid et que c'était seuls ceux qui faisaient rien qui n'étaient pas critiqués. Et il nous a dit qu'on était une nation de 66 millions de procureurs, Wendy. Donc Frédéric est un procureur, Laetitia aussi, qui est très en colère ce soir, Laetitia. Moi-même, je suis en colère, je suis un procureur. On est tous des procureurs. Alors, la question,
ça a blessé tout le monde, cette phrase.
Quand il y a 66 millions de procureurs, la question qu'on pourrait lui demander, d'abord, pour se faire réélire, c'est rarement bien d'insulter sa base, mais aussi, accessoirement, qui est l'accusé? Parce que s'il y a 66 millions de procureurs, il y a un accusé.
Le gouvernement.
Voilà, le gouvernement. Alors, c'est la peur de l'Élysée, c'est de passer, merci Laetitia, c'est de passer du succès de Faites entrer l'accusé qu'on a très bien connu avec le fantastique Christophe Ondelat que tous les auditeurs d'Europe 1 adorent, de passer de ça à Faites sortir l'accusé en 2022. Donc c'est un petit peu leur crainte, donc on va voir si ça se produit.
Ouais.
Deuxième point qui est très embêtant dans la communication cette semaine, il y en a eu tellement que je ne suis pas tous les énumérer, Olivier Véran qui est passé en quelques heures, je ne sais pas si on peut écouter l'extrait.
On va l'écouter tout de suite, écoutez.
Nous ciblons 15 millions de personnes vaccinées d'ici avant l'été. Nous sommes en mesure de vacciner 1,3 million, 1,4 million Français à la fin du mois de janvier. 43 millions à la fin du mois de juin.
Voilà.
Oh, alors, entre 15 millions et 43 millions, hein, cette petite...
À 11h du matin, la France pouvait vacciner pas tout le monde. Alors il allait falloir continuer les mesures de restriction jusqu'à la fin de l'année. Et puis à la fin de la soirée, vers 20h, pour le 20h de TF1, là on pouvait vacciner tout le monde. Donc on est passé de 35 millions à 70 millions. De vacciner en quelques heures. Wendy, c'est merveilleux, c'est la multiplication des vaccins.
Oui.
C'est Saint-Véran probablement qui nous fait ça, mais en tout cas, c'est pas très sérieux et c'est un vrai problème. Et troisième accro, c'est la communication Dupont-Moretti sur une affaire très sensible qui est l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs qui est demandée par toutes les associations. On a sorti une espèce de mesurette qui ne satisfait personne, on aura l'occasion d'en parler. Et Dupont-Moretti a dit non, mais la prescription, elle a quand même plus d'avantages sociaux que l'imprescriptibilité. Donc on aimerait bien savoir, étant donné que Dupont-Moretti écoute fréquemment Europe 1, peut-être qu'il écoute en ce moment, s'il peut nous appeler pour nous dire ce que c'est qu'un avantage social lié à la prescription des crimes sexuels sur mineurs, dont on sait qu'ils mettent des décennies à être reconnus et à être dénoncés. On aimerait bien savoir ce que ça apporte comme avantage, ça, la prescription.
Bah, si vous voulez, on peut y venir tout de suite, hein, parce qu'on a appris ce soir par message vidéo qu'Emmanuel Macron se positionnait sur le sujet. Face aux victimes de ces violences sexuelles, il leur promet qu'elles ne seront plus jamais seules, qu'aucun répit ne sera laissé aux agresseurs, qu'il va falloir adapter notre droit.
Oui, mais ça, c'est des paroles. Dans la vérité, c'est faux.
J'entends. Il a demandé à Éric Dupond-Moretti et à Adrien Taquet de mener une consultation pour de rapides propositions. Donc, en effet, beaucoup de mots pour l'instant sur un sujet. Alors, on a attendu Emmanuel Macron un peu plus de 15 jours après cette vague d'indignation. Il a mis du temps à s'exprimer, oui. Le président, sur ce sujet extrêmement sensible. Sa femme s'est même exprimée avant lui.
Oui, c'est vrai que c'est souvent sa femme qui le précède. Elle avait, elle, parlé le premier du harcèlement scolaire dont on parlait ensemble, Wendy, la semaine dernière. Alors, le politique se saisit de ce sujet. Ça ne vient bien sûr jamais assez vite. Moi, je voulais revenir sur la première partie du coup de griffe de Philippe sur les 66 millions de procureurs. Moi, j'ai toujours tendance à mettre à distance l'impact de ces petites phrases sur la popularité des hommes et des femmes politiques, parce qu'on est assez microcosmique. Est-ce que tout le monde a entendu parler de ça? Mais s'agissant d'Emmanuel Macron, ça construit une histoire, ça construit un récit. Sa première petite phrase, ses premières petites phrases, Wendy, préexistent à son élection. Mmh. C'était ici, dans le studio d'Europe 1, lors d'une matinale en 2015, où il a parlé des ouvrières de Gade, illettrées. Et tout ça contribue à forger un récit, des perceptions, des représentations en termes de distance, en termes de déconnexion d'Emmanuel Macron. Alors qu'il a eu tort sur le fond, les Français reconnaissent le droit à l'erreur. Ils apprécient les politiques qui reconnaissent l'erreur. Édouard Philippe, pendant cette période d'état de grâce qu'il a connue avant son départ, les Français, dans nos enquêtes qualitatives, déclaraient, il dit parfois qu'il ne sait pas. Il dit parfois que nous avons mal agi. En revanche, les Français, s'agissant de leurs responsables politiques, ne supportent pas deux dimensions. Le mensonge, la tromperie, et là je ne reviens pas sur les masques, et puis l'aveu d'impuissance. Mmh. Parce qu'en France, on aime le volontarisme politique.
Ouais, merci pour cette lecture. Laetitia Krupa, sur la position d'Emmanuel Macron ce soir dans ce message vidéo, il s'adresse donc aux victimes de crimes sexuels commis sur ces mineurs.
Il me semble que c'est fondamental qu'un président de la République prenne la parole sur ce sujet. Quand j'entends nos aînés, par exemple, des personnes qui aujourd'hui ont 80 ans et qui donc ont vécu vraiment les années 70. Je vous repasse toutes ces émissions en télé là, qui sont en replay sur les réseaux sociaux et qui font vraiment froid dans le dos. C'est effroyable ce qu'on pouvait entendre à cette époque-là sur l'inceste. Et souvent, ils disent, quand ils parlaient aux législateurs, quand ils parlaient aux politiques, qu'on leur répondait « Attention, ne touchez surtout pas à l'inceste parce que ce serait un bouleversement tel qu'on n'arriverait pas à le contenir. » Vous vous rendez compte ? Donc le tabou, en fait, c'est un tabou qui est un pilier de notre société. Mmh. Donc oui, c'est de la responsabilité d'Emmanuel Macron, bien sûr, en tant que président de la République, de saper ce tabou qui est en fait un poison dans notre société. Donc peut-être que ça va faire effectivement plusieurs bouleversements. Peut-être que ça va déséquilibrer certaines parties de notre société, en tout cas le maillage, mais c'est fondamental.
Ça bouge, ça bouge et ça crée des moments de vérité ou de radio, en tout cas. C'était lundi matin sur l'antenne d'Europe 1. Interview très bien menée par Sonia Mabrouk face à Jack Lang, qui lui avait signé une tribune en 1977 qui défendait trois personnes accusées de pédophilie. Elle revendiquait un consentement possible pour les mineurs de 13 ans. Eh bien, voici ce qu'il en dit 43 ans plus tard. Écoutez Jack Lang sur Europe 1.
Je combats et j'ai combattu en permanence l'inceste, la pédophilie, cette violence sexuelle. J'ai été un militant permanent, en particulier des violences faites aux femmes. J'ai écrit des livres, Demain les femmes. J'ai réclamé que le viol soit considéré comme un crime. Donc, je n'ai pas à me justifier à l'instant.
Mais
si
non, mais ce n'est pas une justification, c'est un éclaircissement. Parce que pourquoi
je
on
vous
retrouve...
Je ne vais pas en dire plus.
Pourquoi
j'ai
on vous
répondu,
retrouve du
c'est
côté...
C'est aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui,
Monsieur Lang,
aujourd'hui
Monsieur
c'est
Lang.
Inacceptable.
Bien
et
sûr, mais pourquoi on vous retrouve du côté de la défense de ceux qui sont accusés, rarement du côté de celles et ceux qui souffrent ?
Écoutez, aujourd'hui, nous sommes en lutte les uns et les autres contre c'est l'inceste, les atteintes à la pédophilie, les atteintes aux mineurs. C'est révoltant, et en effet, et il se fait qu'un jour, il y a 50 ans ou 60 ans, nous sommes une cinquantaine d'intellectuels à avoir écrit une connerie. Qu'est-ce que je dois faire ? M'immoler devant vous ? Je dois
simplement comprendre.
On a fait une connerie et basta, voilà.
Ouais, c'est rare que Jack Lang perde de pied. Alors, c'était pas il y a 60 ans, c'était il y a 43 ans. Correction, Philippe Monchevrolet.
Oui,
qu'est-ce que ça traduit ?
L'interview était excellente, déjà, il faut le dire. Et puis, elle a posé la bonne question quand elle a dit « Mais pourquoi on vous voit plus souvent du côté de la défense des agresseurs que des agressés ?» C'est une question qu'on aimerait poser à beaucoup d'intellectuels qui ont défendu systématiquement ce type de prédateur. Et dans les mêmes termes et de la même façon, comme Finkielkraut, c'est étonnant quand même. Pourquoi ils le font ? Il n'y a pas eu d'introspection de la part de Jack Lang parce qu'il était évidemment sur la défensive. Là où Jack s'est un peu moqué de nous, c'est quand il a dit « Moi, vous savez, je suis un homme d'action, je déteste les mondanités ». Là, on était dans un niveau de...
Je suis pas dans ce monde-là.
Je ne suis pas d'accord avec qui était de 10 sur l'échelle de 10.
Oui. L'homme d'action, voilà. Oui. Les Français ont toujours reconnu l'action de Jack Lang. C'est une des personnalités qui a toujours été préférée par les Français. Non pas par une popularité d'image et de papier, mais l'action au ministère de la Culture, à l'Éducation nationale, où je répète que c'est le seul ministre qui a vu son action plébiscitée par les anciennants, alors que ses prédécesseurs et ses successeurs ont souvent quitté la rue de Grenelle dans des situations absolument catastrophiques. Et puis, bon, sur les mondainités, c'est sa part de vérité. Je ne ferai pas de commentaires. Je note quand même qu'il reconnaît une connerie.
Mmh. Oui.
Moi, je pense qu'il ne faut qu'il plus être dans la tiédeur sur ces sujets-là ou dans... oui, c'est vrai, après tout, on a fait ça, mais vous comprenez bien, c'était il y a 43 ans, ma bonne dame. Hein, donc aujourd'hui, je crois que c'est fini tout ça. Vous voyez, pour moi, c'est l'autre monde. Voilà. Moi, je suis de la
d'ailleurs,
génération...
D'ailleurs, c'est difficilement entendable aujourd'hui, hein, même s'il est probablement
sincère.
Non,
il faut prendre position aujourd'hui, Wendy. Je crois qu'il faut avoir le courage de prendre position. Pas pour forcément enfoncer l'autre, mais être courageux. Voilà, aujourd'hui, encore une fois, dans son positionnement, quand je parle évidemment des hommes politiques, des personnalités publiques, je vous recommande une interview de Christine Angot. Alors, c'est une radio concurrente, mais je le fais quand même parce qu'elle était vraiment excellente, cette interview, parlée à Salamé. Et notamment, elle met le doigt sur une façon aussi de se positionner d'Éric Dupond-Moretti qui est un peu trouble. Et c'est pas possible, en fait. On ne peut pas, en tant que garde des Sceaux aujourd'hui, avoir comme ça des mots qui soient encore une fois flous.
Oui, dire que c'est toujours difficile de légiférer sous le coup de l'émotion, c'est son grand mantra.
Oui, alors, c'est intéressant parce que les gardes des Sceaux de l'époque ont été très réactifs, ont parfaitement compris la déflagration de l'affaire Doutreau, qui est à un moment extrêmement central sur les questions de pédophilie, sur les questions d'accusation sans preuve. La plupart des accusés d'Doutreau ont été acquittés. Là, on sent, c'est vrai, une difficulté à prendre en compte ces situations. Est-ce que c'est générationnel? Vous parliez de Jack Lang. Je pense à la fameuse émission de Mads Neff chez Apostrophe avec Bernard Pivot. Oh, Bernard Pivot, homme infiniment estimable. Bah, voilà, il a été très gêné de revoir les vidéos de l'époque où il avait l'air d'exonérer, de rigoler. Vous avez une belle santé, vous ne vous ennuyez pas, vous êtes un sacré dragueur. C'est des choses qui sont, comme vous le disiez tout à l'heure, Laetitia, inaudibles aujourd'hui, inentendables.
C'est parce que les droits de l'enfant, c'est quelque chose de relativement récent. Et pour cette génération, visiblement, les enfants étaient des objets sexuels comme n'importe quel autre objet sexuel. Il n'y avait pas vraiment de réflexion sur les effets, les dégâts que ça pouvait produire. Moi, je suis sidéré de constater que la promiscuité sexuelle était totale entre adultes et enfants à Sanary-sur-Mer chez Olivier Duhamel. C'est dans un livre, donc c'est le domaine public. Hein, je ne suis pas en train de révéler des détails privés. Moi, j'ai lu ça. C'est inconcevable, je pense, aujourd'hui. Heureusement, on a progressé. Mais le choc de civilisation entre cette génération-là et la nouvelle génération est total. Et on voit bien que Jack Lang, il se retrouve confronté à quelque chose qu'il n'avait pas prévu et qui le sort complètement de ses cadres. Et c'est bien qu'il y ait un changement culturel, mais il est très, très violent pour cette génération.
Et le choc de civilisation, il n'est pas
tant
encore
mieux.
Tout à fait réalisé. Hein. Les sénateurs ont voté la création d'un nouveau crime sexuel pour les mineurs de moins de 13 ans. Donc, on fixe le seuil de non-consentement à cet âge, c'est-à-dire à 13 ans. Et un jour, on considère que l'enfant est d'accord pour avoir des relations sexuelles avec un membre de sa famille.
La sénatrice qui a porté cette proposition de loi a dit à 14 ans, on peut être consentant. N'oubliez pas qu'il y a des enfants consentants. Elle n'a pas compris où elle mettait les pieds,
non.
Je pense.
Ouais. C'est complètement débile. Enfin, excusez-moi,
c'est compliqué parce que ça nuit vraiment au message présidentiel.
Ça fait 3 semaines qu'on a la déflagration du livre de Camille Kouchner, où je vous rappelle, son frère avait 14 ans. Donc déjà, c'est idiot. Pardon, c'est idiot, puisque tout le monde, c'est un livre qui se vend à des chiffres phénoménaux, on en parle dans tous les médias, donc les Français sont au courant de cette histoire, et symboliquement, s'arrêter à 13 ans, alors que
toutes les associations revendiquent le seuil il y a 15 ans. Hein.
Bien sûr, et puis cette discussion avait déjà été lancée par Malène Schiappa. Mmh. Ça avait été difficile à l'époque, souvenez-vous, déjà de 15 ans, de faire adopter 15 ans, qui est la majorité sexuelle, il me semble, comme âge pivot, mais c'est très difficile de
fixer un âge. Donc les sénateurs n'ont rien compris. Là, ce soir, les sénateurs n'ont rien compris sur cette histoire cette semaine.
Après, il ne faut pas non plus tout enterrer parce qu'il y a d'autres mesures qui vraiment entourent et qui punissent l'inceste. Donc,
ce n'est
pas sur une mesure, encore une fois, qu'il faut discuter toujours et faire polémique. Mais il y a un cursus de mesures qui va être important à appliquer. Mais c'est vrai que symboliquement, ces 13 ans, c'est...
Et nous recevons dans le journal de 19h, pardonnez-moi, la directrice de SOS Inceste qui va réagir à ces débats et à cette déclaration d'Emmanuel Macron ce soir. Philippe et Frédéric.
Ce que demandent les associations, qui est très clair, c'est pas de consentement avant 15 ans. Ça n'existe pas et ça ne doit pas exister. C'est la grande excuse des pédophiles aujourd'hui, donc on doit faire disparaître cette notion. Et puis, c'est l'imprescriptibilité, parce qu'on met des décennies à dénoncer ce type de crime. Donc, c'est la logique. En dessous de ça, il n'y a pas de mesure audible pour les associations.
Frédéric David.
Ce qui est très intéressant, c'est que les deux mesures que vous venez de décrire, sauf erreur de ma part, je ne les ai jamais vues testées dans une enquête d'opinion, parce que pour l'énorme majorité des Français, l'énorme majorité, ça va complètement de soi.
Ben oui.
Et donc ça montre, il y a aussi d'autres sujets, on a parlé souvent ensemble de la fin de vie, Wendy, le décalage parfois absolument sidérant entre les représentants, enfin une partie des représentants et les représentés.
On va terminer avec votre coup de gueule, une fois n'est pas coutume, il est 18h55.
Désolé Frédéric.
On a complètement dilué ce débat, mais il est intéressant, encore une indignation ce soir.
C'est la soirée où on s'indigne, demande essaiera d'être plus consensuel. Mais c'est un coup de griffe pour l'entreprise Disney qui a pris la décision de supprimer du profil enfant de sa plateforme Disney+, un certain nombre de films parmi les plus célèbres de Walt Disney, tels que Peter Pan, Dumbo, Les Aristochats, La Belle et le Clochard. Désormais, ces classiques ne seront plus directement accessibles par les enfants et devront faire l'objet d'un contrôle parental. En outre, ces dessins animés seront précédés d'un message avertissant que le film comprend des représentations négatives ou des mauvais traitements de certains peuples ou cultures, ou qu'il met en scène des descriptions culturelles démodées, des stéréotypes, je cite, fautifs à l'époque de la sortie du film et fautifs aujourd'hui. Alors, cette décision ne constitue pas, Wendy, une surprise, puisque dès le mois d'octobre dernier, Disney avait installé des mises en garde contre certains de ses films pouvant être jugés offensants ou véhiculant des stéréotypes racistes. Alors, qu'est-ce que peut nous inspirer cette décision de la firme aux grandes oreilles, comme on l'appelle? D'abord, personnellement, je la trouve assez cocasse, dans la mesure où Disney censure l'accès de ses propres œuvres à son public cible, à savoir les jeunes enfants. Par ailleurs, cette décision revient également à considérer que les parents sont incapables de débattre, d'expliquer, de dialoguer avec les enfants autour de ses œuvres. Une fois de plus, chez certains, on préjuge de la bêtise ou de la non-intelligence des gens. Surtout, et j'ai l'impression de me redéplacer à dimanche dernier, on retrouve un nouvel avatar des ravages du politiquement correct. Disney intériorise les codes du moment, c'est-à-dire traquer tout signe de stigmatisation. La scène des chats siamois dans La Belle et le Clochard, n'est-ce pas une offense envers les personnes d'origine asiatique? Celle des corbeaux dans Dumbo, c'est sans doute une offense à l'égard des afro-américains. Quid des Indiens dans Peter Pan? Et puis Edgar, que peut-être votre fille a vu dans les Aristochats,
alors qu'est-ce qui se passe avec
c'est
Edgar
quand même extrêmement stigmatisant à l'égard des personnes âgées.
Voilà. Ah.
Donc,
vous avez oublié La Belle au bois dormant, c'est quand même une apologie de la culture du viol, elle n'a rien demandé. Et puis on
exactement,
la réveille,
donc on est bien sûr dans cet âge identitaire et racialiste qui, s'agissant du cinéma, tente à tout déconstruire. Et là, on se souvient de la polémique pour le film Autant en emporte-vent, qui a été vu avec les lunettes d'aujourd'hui comme un film jugé raciste ou accusé d'enjoliver l'esclavage. On est dans une période quand même extrêmement, si je puis dire, navrante.
Oui, voire insupportable. Alors terminons un petit peu avec la rêverie du Disney. Peter Pan, tenir musique. Moi, c'est ça, je retiens de Peter Pan, c'est pas le reste. Mais merci en tout cas. Frédéric David, Laetitia Coupa, Philippe Bonrochevrolet, merci infiniment. On vous retrouve demain, 18h30.
Avec des coups de cœur.
Avec des coups de cœur et d'autres indignations. Mais ça fait avancer le débat et on vous remercie. La preuve, le MeToo Inceste dont on parle depuis 3 semaines, on est en plein dedans ce soir.
Merci.
Ah oui, désaccordement. A tout de suite sur Europe 1 avec l'info, 19h.